Chapitre 19. Visiteurs imprévus. Peut-être le lecteur s'étonnera-t-il que j'aie pris brusquement la résolution d'emmener Edith en Hollande. Quelques mots d'explication me semblent nécessaires. L'ignoble individu, qui s'appelait Bill Sharper, connaissait mon adresse. Si je laissais Edith à Londres, le bandit, furieux d'avoir été joué, trouverait certainement le moyen de s'introduire auprès de ma maîtresse. De complicité avec Manzana, il la terroriserait, la menacerait et finirait par lui faire avouer que j'étais parti pour la Hollande. Bill Sharper ne comprendrait pas grand-chose à cette disparition, mais Manzana comprendrait, lui. Il songerait immédiatement au lapidaire d'Amsterdam dont je lui avais souvent parlé et il s'arrangerait pour venir me retrouver. Dans le cas où il serait impossible d'entreprendre ce voyage, il me dénoncerait à la police et je serais cueilli avant d'avoir pu vendre mon diamant, ce précieux diamant que je tenais toujours caché dans le talon droit de ma bottine. En m'enfuyant avec Edith, j'enlevais à mes ennemis le seul témoin qui peut les renseigner. Le lendemain, quand Bill Sharper viendrait au rendez-vous que je lui avais assigné, il trouverait visage de bois. Pendant qu'il me chercherait dans Londres, en compagnie de Manzana, je voguerais tranquillement vers la Hollande. Bien entendu, je ne reviendrai pas de sitôt en Angleterre. Lorsque j'aurai touché mes millions, je m'embarquerai pour l'Amérique et m'arrangerai là-bas, avec Edith, une jolie petite existence. Pour l'instant, Londres était dangereux et il fallait fuir au plus vite. Nous déjeunâmes tranquillement, Edith et moi, puis nous fîmes nos malles, ce qui ne nous prit pas beaucoup de temps, car nous avions très peu de choses à mettre dedans. Ma garde-robe, comme celle d'Edith, avait besoin d'être considérablement augmentée, et je me promettais bien de le faire dès que j'aurais enfin converti en banque-notes ce maudit diamant qui commençait à devenir terriblement embarrassant. Pendant que nous procédions à nos préparatifs, Edith, aussi joyeuse qu'une petite pensionnaire qui part en vacances, me posait une foule de questions, auxquelles je répondais parfois par quelques plaisanteries, car j'étais très gai ce jour-là et j'avoue que j'étais aussi impatient que ma maîtresse de quitter l'Angleterre. Je dois dire aussi que la perspective de ne pas être séparé d'Edith m'était fort agréable. Je déteste la solitude. Quand je suis seul, j'ai souvent des idées noires. Avec une petite folle comme Edith, je n'aurai pas le temps de m'ennuyer. J'avais d'abord décidé de l'emmener à Amsterdam, mais je me ravisais. Il était préférable de la laisser soit à La Haye, soit à Harlem, car les femmes sont curieuses et je ne tenais pas à ce qu'elles me suivît et arrivât à découvrir l'adresse de mon lapidaire. J'avais inventé l'histoire de l'oncle Schaff. Il fallait que jusqu'au bout, Edith fût persuadée que c'était mon bailleur de fonds. Je pouvais donc jouer de l'oncle Schaff tant qu'il me plairait et le faire mourir au moment opportun. Ah, misérable Manzana, comme vous alliez être roulé! Peut-être que si vous vous étiez mieux comporté envers moi, j'aurais fait votre fortune. Mais maintenant, j'eusse mieux aimé jeter 100 000 francs dans la Tamise que de vous donner un shilling. Edith aurait votre part, et il était plus naturel qu'il en fût ainsi. Vers 3 heures de l'après-midi, je réglai la note d'hôtel et priai notre logeuse d'envoyer chercher un taxi. Quelques instants après, une maid vint nous avertir que le taxi était en bas, mais que le chauffeur refusait de monter pour prendre les bagages. Il n'était pas bien lourd à la vérité, mais j'hésitais à les charger sur mon dos. On a beau ne pas être fier, il y a des cas où l'on tient à conserver sa réputation de gentleman, surtout devant une maîtresse qui vous croit fils de millionnaire. Ben, « Trouvez-moi quelqu'un pour enlever cela, » dis-je d'un ton bref. « Il ne manque pas de gens dans la rue qui ne demandent qu'à gagner une couronne. » La maid descendit immédiatement et quelques instants après, elle remontait en disant « J'ai trouvé quelqu'un, sœur !» Un pas lourd résonna dans l'escalier, puis une silhouette énorme s'encadra dans le chambranle de la porte.
« On a demandé un porteur ?» fit une affreuse voix grasseyante. « Me voilà !»
Et l'homme qui venait de prononcer ces mots me regardait d'un œil narquois. C'était Bill Sharper. Il salua avec affectation, puis un petit rire qui ressemblait au bruit que fait une poulie mal graissée, puis s'avançant au milieu de la pièce, s'écria au grand effarement d'Edith. «
Ah, les amoureux, vous vous apprêtez à vous quitter, à ce que je vois. Et les rendez-vous, les affaires importantes. »
Voulant à tout prix éviter un scandale, je m'approchai de Bill Sharper et lui glissai à l'oreille. « Pas un mot de plus, il y a 100 livres pour vous. »
« 100 livres, c'est bon à prendre, » répondit la brute à haute voix. « Mais j'y marche pas. Cependant, oh, il n'y a pas de cependant. Quand Bill Sharper dit qu'il marche pas, il n'y a rien à faire. Faudrait tout de même pas me prendre pour un cockney, monsieur Edgar Pipe. »«
Mais voyons, mon ami,
il n'y a pas d'amis qui tiennent. Moi, j'aime pas qu'on se paye ma tête. Ce matin, vous me donnez rendez-vous pour le lendemain, sous prétexte que vous avez une affaire à me proposer, et psst, monsieur s'apprêtait à me glisser entre les doigts. Voyons, monsieur Edgar Pipe, c'est-il des procédés honnêtes, ça? Moi, je suis ce que je suis, mais quand je donne ma parole, ça vaut un écrit.
Mais, insinuai-je, vous vous trompez, je ne quitte pas Londres. C'est madame qui s'en va, et je l'accompagnais à la gare.
« Oh non, voyez-vous, on ne fait pas prendre un bec de gaz pour la lune. Monsieur Pipe, cette malle est bien la vôtre, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, la meilleure preuve que vous étiez prêt de filer, si vous aviez pris 2 billets à Charing Cross, avouez que ma police est bien faite. »
Je vis tout de suite que j'étais perdu. J'avais échappé à Manzana pour tomber sur une bande de maîtres chanteurs qui ne me lâcheraient pas facilement. Edith, qui ne comprenait rien à cet imbroglio, commençait à se fâcher.
« Mais c'est ridicule, tout cela !» s'écria-t-elle. « Attendez, je vais appeler un policeman. »«
Allons, ma belle !» dit Sharper. « Tâchez de vous tenir tranquille, ou sans cela !»
Il la repoussa au fond de la pièce.
« Edgar, Edgar !» suppliait ma maîtresse. « Vous n'allez pas me laisser brutaliser par ce rustre !» Il est ivre, vous le voyez bien. »
Bill Sharper éclata de rire. Les choses allaient se gâter, il fallait absolument que je sortisse de là, mais comment? M'attaquer à Bill Sharper, il n'y fallait pas songer. Cet homme était un Hercule et il m'eût fait de moi qu'une bouchée. Il ne me restait qu'une solution, parlementer, mais... cela était bien délicat, surtout devant Edith. Je m'approchai du drôle et lui glissai rapidement ces mots.
« Descendons, nous nous expliquerons en bas. »« Mais pas du tout, » répliqua-t-il. « Nous sommes très bien ici pour causer. »« Ah oui, je comprends, vous ne voulez pas mettre madame au courant de vos petites histoires. »« Mais bon, elle les apprendra tôt ou tard. Elle doit bien se douter d'ailleurs que vous n'êtes pas le prince de Galles. »
Edith, toute troublée, me regardait d'un air effaré. Évidemment, tout cela devait lui sembler étrange. Ma rencontre avec Manzana pouvait à la rigueur s'expliquer, mais comment lui faire admettre que Bill Sharper ne m'avait jamais vu? D'ailleurs, le gredin avait plusieurs fois prononcé mon nom, et maintenant il devenait plus précis.
« Voyons, Edgar Pipe, disait-il, il ne m'appelait déjà plus monsieur. » « Il s'agit de s'entendre. Votre ami Manzana prétend que vous l'avez volé et que vous détenez indûment un gage qui est sa propriété autant que la vôtre. »«
Mais c'est un affreux mensonge, » m'écriai-je. « Manzana veut me faire chanter. » Edith crut devoir prendre ma défense.
« Oui, oui, » s'écria-t-elle, « il y a là-dessous une vilaine affaire de chantage. Monsieur Edgar Pipe, mon ami... est un honnête homme, incapable de conserver par-devers lui ce qui ne lui appartient pas. Si ce monsieur Manzana a quelque chose à réclamer, pourquoi ne vient-il pas lui-même?
Pauvre petite Edith, si elle avait pu se douter.
Bill Sharper, sans paraître entendre ce qu'elle disait, continuait de discourir.
« Monsieur Manzana, dit-il, n'a aucune raison pour me tromper. Je le crois sincère. En tout cas, il a remis sa cause entre mes mains et je dois me renseigner. D'abord, Edgar Pipe, là, puisque vous prétendez n'avoir rien à vous reprocher, pourquoi vous apprêtez-vous à quitter Londres? Le temps est guère propice aux villégiatures. Vous pouvez donc pas invoquer l'excuse d'un petit voyage d'agrément. »
Mais Monsieur Pipe, répondit vivement Edith, a un oncle qui est très malade. Il allait lui rendre visite. Voyons, Edgar, montrez donc à monsieur la lettre que vous avez reçue de Hollande.
Mauvaise excuse, ricana Sharper. Puisque monsieur Pipe savait qu'il allait s'absenter, pourquoi m'a-t-il donné rendez-vous pour demain?
J'expliquai à Sharper qu'au moment où je lui fixais ce rendez-vous, je n'avais pas encore reçu la lettre en question.
Il fallait me faire prévenir,
murmura-t-il. Et où cela? Fis-je en haussant les épaules. J'ignore votre adresse.
Vous n'aviez qu'à déposer un mot à mon nom au bar du Soho où nous avons fait connaissance.
C'est vrai, oui, je n'y ai pas songé.
Allons, trêve de discours. Nous perdons notre temps en ce moment.
Certainement, oui, et je dois vous dire, mon cher Sharper, que vous vous occupez là d'une affaire qui ne vous rapportera absolument rien.
Vous croyez? Moi, je ne suis pas de cet avis.
Vous verrez. Si j'ai un conseil à vous donner, vous feriez mieux d'accepter les 100 livres que je vous ai offertes tout à l'heure.
Non, je préfère attendre. Je suis sûr que ces 100 livres-là feront des petits.
Vous vous illusionnez.
C'est possible, nous verrons. En attendant, il serait peut-être bon que nous consultions M. Manzana. Il est justement en bas. Je vais le prier de monter.
Edith, en entendant ces mots, se mit à pousser des cris terribles.
Non, 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 hurlait-elle. Je ne veux pas voir cet homme. Il me fait peur. Je ne veux pas qu'il monte. Je suis ici chez moi. Miss Mellis, allez chercher la police.
Vous, si vous appelez, dit Bill Sharper,
et il fit avec ses énormes mains le geste d'étrangler quelqu'un. Edith, plus morte que vive, s'était blottie contre moi. Rassurez-vous, lui dis-je, pendant que Bill Sharper descendait l'escalier, il ne vous arrivera rien. Je suis victime d'une bande de gredins qui, me sachant riche, ont inventé une affreuse histoire pour me perdre. Ne vous étonnez de rien. Avant peu, tous ces gens-là seront arrêtés et nous en apprendrons de belles sur leur compte. Faites-moi confiance, Edith. Vous savez que je vous aime et que mon seul désir est de vous rendre heureuse. Ma maîtresse me serra la main avec force et cette étreinte me redonna du courage. Déjà, Bill Sharper revenait, accompagné de Manzana et d'un autre individu à figure patibulaire, qu'il me présenta comme un interprète.
« Ah, traître, ah, bandit !» s'écria Manzana dès qu'il m'aperçut. « Vous menez votre vie joyeuse, vous payez des femmes !»
D'un geste, Bill Sharper l'invita à se taire, mais comme Manzana, qui était fou de rage, continuait de m'insulter, il lui imposa silence en lui envoyant un coup de coude dans les côtes. Mon associé se calma.
« Messieurs, dit Bill Sharper, après avoir refermé la porte à double tour, il ne s'agit pas en ce moment de se disputer comme des portefaix. Monsieur Manzana, ici présent, a porté contre Monsieur Edgar Pipe une accusation grave. Il faut que nous sachions si Monsieur Manzana a raison, oui ou non. » Interprète, traduisez mes paroles au plaignant.
Lorsque cet ordre eut été exécuté, Manzana commença de parler, et au fur et à mesure que les mots sortaient de ses lèvres, l'homme à la figure patibulaire traduisait d'une voix enrouée. Manzana prétendit que nous étions associés pour la vente d'un diamant, que ce diamant lui appartenait, comme à moi, mais que je m'étais enfui subitement afin de garder pour moi seul l'objet qui était notre commune propriété. J'arguais, pour ma défense, que l'on m'avait dérobé le diamant. Manzana soutint que je l'avais vendu à vil prix ou que je l'avais encore sur moi.
« Mais je vois, dit Bill Charter, que ces messieurs ne pourront jamais s'entendre. Ce qu'il y a de certain, d'ailleurs personne ne le conteste, c'est qu'il y avait un diamant. Il semble peu probable que M. Edgar Pipe se soit laissé prendre. Quand on porte sur soi un diamant de plusieurs millions, on le cache soigneusement. Pour ma part, je ne crois pas un traître mot de ce que M. Pipe vous a raconté. » De la chose l'une, où il a bazardé l'objet, où il l'a encore sur lui. S'il a bazardé, il doit nous montrer l'argent, et s'il l'a conservé, il doit nous présenter le gage.
Manzana s'écria.
Mais il portait toujours le diamant dans la poche de côté de sa chemise, fouillez-le.
Mais c'est une excellente idée, en effet, approuva Bill Sharper. Chapitre 20. Les amis de Manzana. Ce fut Bill Sharper lui-même qui se chargea de me fouiller, et je dois reconnaître qu'il le fit avec une habileté qui dénotait une longue pratique. Il s'appropria, sans même s'excuser, de mon portefeuille, mon canif et de mes clés, puis après avoir exploré une à une toutes mes poches, avoir soigneusement tâté la doublure de mon veston et celle de mon gilet, il promena ses énormes mains sur ma poitrine.
« Oh !» s'écria-t-il, « je sens quelque chose là !»«
C'est le diamant !» s'exclama Manzana. « Je vous disais bien qu'il avait encore sur lui !» Bill Sharper souleva délicatement la petite patte de ma chemise de flanelle et s'empara du sachet qui avait autrefois contenu le régent, mais qui ne renfermait plus maintenant que la pierre de lune fétiche dont j'avais donné un morceau à Edith. Bill Sharper, d'une main fiévreuse, ouvrit immédiatement le petit sac, en tira la pierre et la présentant à Manzana.
« Est-ce là un diamant ?» demanda-t-il avec une affreuse grimace.
« Non, non !» répondit Manzana, qui avait pâli subitement.
« Non, vous voyez bien que c'est un caillou. »
Alors, il y eut un silence. Mes deux ennemis, Manzana surtout, ne comprenaient rien à cette substitution. Ils me regardaient fixement, attendant sans doute que je leur donnasse l'explication du mystère. Ce fut Bill Sharper qui rompit le silence.
« Monsieur Edgar Pipe, dit-il, « veuillez nous expliquer comment une pierre précieuse a pu dans votre poche s'enchaîner en caillou ?»«
Non, c'est bien simple, répondis-je. Ceux qui m'ont dérobé le diamant ont mis cette pierre à la place. »«
En manière de plaisanterie ?»«
Probablement. »«
Et vous conserviez cela ?»«
Bon, je ne veux pas songer à m'en défaire. »
Bill Sharper demanda à Manzana, par l'intermédiaire de l'interprète, « Quel est votre avis ?»«
Barbe, le gradin se moque de nous, Edgar Pipe. Vous êtes un rusé compère, mais il faudra bien, coûte que vous me disiez où vous avez caché le régent.
Oh, je vous répète qu'on me l'a volé.
Mais alors d'où vient l'argent que vous avez en portefeuille ?»
« Mais cet argent n'est pas à moi, il est à madame. »«
Oui, affirma Edith en saisissant la balle au bond, cet argent m'appartient et vous allez me le rendre, je suppose. »«
Certainement, répondit Bill Sharper. »« Mais à une condition, c'est que vous nous indiquiez la source. »«
Insolent. »«
Ah, vous voyez, vous ne pouvez pas répondre. » Cet argent est bien Edgar Pipe, ça fait aucun doute.
Se tournant alors vers moi, Bill Sharper me dit d'une voix grave,
« Monsieur Edgar Pipe, puisque vous ne voulez pas vous expliquer de bonne grâce, nous allons être obligés de vous emmener avec nous.
M'a emmené, m'écriai-je, mais où cela? Vous le verrez. Mais à quel titre vous substituez-vous à Manzana? Si quelqu'un a des comptes à me demander, c'est lui, lui seul, entendez-vous?
Bill Sharper laissa d'un ton gouailleur tomber ces mots.
Monsieur Manzana est aujourd'hui mon client. N'est-il pas naturel que je prenne ses intérêts? Je m'y entends assez en affaires litigieuses. J'ai été autrefois clerc chez un solliciteur.
Je vis bien en quelle main j'étais tombé. Ces gens-là ne me lâcheraient point que je n'eusse avoué où se trouvait le diamant. Mais j'étais bien résolu à ne leur céder jamais. D'ailleurs, si étroitement surveillé que je fusse par ces bandits, il arriverait bien un moment où je leur glisserais entre les mains. La situation était cependant des plus graves et je devais m'attendre à toutes les surprises. Bill Sharper et l'indignoble individu qui lui servait d'interprète se livrèrent dans notre domicile à une perquisition réglée pendant que Manzana, appuyé contre la porte, me défiait du regard. Lorsqu'ils eurent tout bouleversé, puis ouvert nos malles sans rien découvrir d'ailleurs, ils se consultèrent un instant, et Bill Sharper, s'approchant d'Edith, lui dit d'une voix qu'il s'efforçait d'adoucir
« Madame, il faut vous prêter à une petite formalité que nous jugeons nécessaire. »
Et comme Edith le regardait d'un air effaré, ne comprenant pas où il voulait en venir,
« Ouais, une formalité, une toute petite formalité, » expliqua le bandit. « Je dois m'assurer que vous ne cachez pas sur vous le diamant. Et si vous le permettez, je vais vous fouiller. »
« Me fouiller ?» s'écria Edith avec indignation. « Mais je ne veux pas. Je refuse. Vous n'avez pas le droit de me toucher. Je vous préviens que si vous approchez, j'appelle. »
Bill Sharper fit un signe à l'interprète, et celui-ci, passant vivement derrière Edith, lui comprima la bouche au moyen d'un foulard sale. La pauvrette eut beau se débattre, elle dut subir les odieux attouchements de Bill Sharper, qui la dépouilla sans pudeur de tous ses vêtements. Bien entendu, il ne trouva rien qu'un petit sachet de soie dans lequel Edith avait cousu le morceau de pierre de lune que je lui avais donné et qu'elle conservait comme fétiche. Pendant que les trois misérables examinaient avec attention ce caillou qui les intriguait, d'un bond, Edith se précipita vers la fenêtre, l'ouvrit, et se penchant dans le vide, appela désespérément d'une voix glapissante « À moi! À moi! À l'assassin !» En moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire, Manzana et ses deux complices avaient disparu. Oh, j'en étais débarrassé. Mais je n'étais cependant pas au bout de mes peines, car maintenant, j'allais avoir affaire à la police, ce qui pour moi n'était pas sans danger. Déjà, on entendait en bas un bruit de voix dans le vestibule.
« À moi! À moi !»
ne cessait de crier Edith tout en se rhabillant. Guidé par ses cris, un énorme policeman, accompagné d'un chauffeur de taxi, monta jusqu'à notre palier. « Eh bien, qu'y a-t-il ? » s'écria l'agent en se précipitant sur moi. « Vous voulez faire violence à madame ?» J'eus toutes les peines du monde à lui faire entendre qu'il faisait erreur. Il fallut qu'Edith s'en mêlât, mais alors le policeman, qui n'avait pas l'esprit très ouvert, ne comprit plus rien du tout. Quand il commença à saisir quelque chose de cette histoire, le chauffeur embrouilla tout.
« Venez avec moi au poste, » dit l'agent. « Nous allons voir à tirer cette affaire-là au clair. »
J'essayais de persuader à ma maîtresse que ma présence était inutile et compliquerait tout, mais elle insista pour que je vinsse déposer avec elle. Le poste se trouvait tout près de là, dans Wardour Street. Un constable grincheux reçut la déposition d'Edith, puis la mienne, et il avoua ne rien comprendre à cette affaire. Il finit par en déduire que je vivais en concubinage avec Edith et que le mari de cette dernière, me croyant riche,
avait, en compagnie de deux malandrins, essayé de me faire chanter. Pendant qu'il inscrivait mes réponses sur un registre placé devant lui, un gentleman des plus corrects, au visage rasé, aux habits d'une coupe impeccable, était entré dans la pièce et s'était assis sur une chaise tout près de la porte. Il avait déplié un numéro du Times et demeurait immobile, la moitié du corps caché par le journal. Il faut croire cependant que notre affaire le captivait plus que la lecture du Times, car lorsque nous nous apprêtâmes à sortir, Edith et moi, il se leva brusquement, et après nous avoir salués avec la plus exquise politesse, me dit en souriant, « C'est très curieux, cette aventure, oui, très curieux, elle m'intéresse énormément et je vais m'en occuper. » Vous avez affaire, monsieur Pipe, à de rusés gredins, dont le signalement correspond exactement à celui de deux malfaiteurs de ma connaissance. Quant au troisième, il me semble jouer dans tout cela un rôle assez singulier. Rentrez chez vous. Je vais vous suivre et, si comme je le crois, vos ennemis rôdent toujours autour de votre maison, je saurai bien les reconnaître. En tout cas, continuez à vaquer à vos affaires comme si de rien n'était. Je veille sur vous. » Et l'inconnu, après avoir prononcé ces mots, s'inclina galamment devant ma maîtresse, me serra la main et sortit du poste. « Vous connaissez ce gentleman ?» demanda Edith une fois que nous fûmes dans la rue. « Non, non, pas le moins du monde, c'est la première fois que je le vois. »«
Il est très bien, n'est-ce pas ?»«
Oui, en effet. »
« Et vous croyez qu'il va réellement s'occuper de nous ?»«
Oh, ça, je ne sais. »«
Oh, Edgar, mais quelle épouvantable scène! Si elle devait se renouveler, je crois que j'en mourrais. »«
Tranquillisez-vous, nous ne reverrons pas ces gens-là. Ils n'ont plus rien à faire chez nous. »«
Avouez quand même que cette affaire est bien étrange. »«
Je vous l'expliquerai en détail, Edith. » Et vous verrez qu'elle est des plus simples, au contraire. Nous étions arrivés devant notre maison. Je m'effaçais pour laisser Edith pénétrer dans le vestibule. Elle était toute tremblante.
« Si nous allions, dit-elle, trouver encore dans notre chambre un de ces vilains hommes ?»«
Ne craignez rien, répondis-je. D'ailleurs, je passe devant vous. » Au premier étage, une femme courroucée sortit d'un petit salon. C'était Miss Mélis, notre logeuse.
« Vous comprenez, me dit-elle, c'est la première fois qu'un tel scandale se produit dans la maison. Et comme je vois qu'il se renouvelle, vous serez obligé de partir le plus vite possible. »
« Bien, c'est ce que nous allions faire. Ce n'est pas notre faute s'il est venu ici des cambrioleurs. Vous devriez vous estimer heureuse qu'ils aient choisi notre logement plutôt que le vôtre. Si votre maison était mieux gardée, pareille chose ne se serait pas produite. » La logeuse, sans répondre, rentra dans la pièce qui lui servait à la fois de salon et de bureau. Dès que nous fûmes rentrés dans notre chambre, Edith, en voyant le désordre qui régnait, se mit à pleurer à chaudes larmes, et j'eus toutes les peines du monde à la consoler. « Bah !» lui dis-je en l'aidant à replacer dans l'armoire le linge que Bill Sharper et son acolyte avaient éparpillé sur le parquet. « Bof, le mal n'est pas bien grand. Vos chemises et vos jupons sont un peu chiffonnés, mais avec un coup de fer, il n'y paraîtra plus. Le plus à plaindre dans toute cette affaire, c'est moi. »«
Vraiment ?»«
Mais oui !» N'avez-vous pas remarqué que ces misérables m'ont pris mon portefeuille ?
Et vous n'avez plus d'argent ?
Plus un penny. Vous en serez quitte pour retourner chez votre oncle de Richmond ? Cette fois, il ne voudra rien entendre.
Mais vous lui direz que vous avez absolument besoin d'argent pour aller en Hollande.
« Oh, si j'avais le malheur de prononcer devant lui le nom de mon oncle Chaff, il me mettrait immédiatement à la porte. »«
Alors ?»«
Alors, je vais voir. »
Il vous reste bien quelques livres, Edith.
Oh, une tout juste.
Mais ce sera suffisant pour aller jusqu'à demain soir. D'ici là, j'aviserai.
Vous ont-ils pris aussi vos billets de chemin de fer?
Évidemment, puisqu'ils ont emporté mon portefeuille et que l'étiquette était dedans. Edith s'était assise et demeurait songeuse, pendant que je replaçais soigneusement dans ma malle divers objets épars sur le tapis.
« Edgar, dit-elle au bout d'un instant, plus je réfléchis à cette aventure, plus je la trouve étrange. Comment se fait-il que ces vilains hommes vous connaissent? Quelle relation de tels bandits peuvent-ils avoir avec un gentleman comme vous?
Mais c'est pourtant bien simple, Edith. Oui, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Le nommé Manzana a été, comme je vous l'ai déjà dit, domestique chez mes parents. Et comme il avait dérobé dans la chambre de ma mère un superbe diamant, nous l'avons fait arrêter. Or, savez-vous ce que le drôle a dit devant le juge d'instruction? Il a prétendu que c'était moi qui étais le voleur. Faute de preuves, on l'a relâché, mais le misérable a juré de me faire chanter. Et chaque fois qu'il me retrouve, il me réclame le diamant afin de le rendre à mon père, prétend-il. Vous saisissez la petite combinaison, n'est-ce pas?
Pas très bien, car Manzana sait parfaitement que l'on ne trouvera pas ce diamant sur vous.
Bien sûr! Mais il espère ainsi m'intimider et me tirer de l'argent. Et vous voyez, son truc réussit, puisqu'il est parvenu aujourd'hui à me chiper mon portefeuille. Il joue du diamant comme d'un appât. C'est un prétexte, voilà tout. C'est de cette façon qu'il amorce la convoitise de ses complices. Chaque fois qu'il me retrouve dans une ville, il recrute quelques malfaiteurs et leur dit « Je connais un homme qui a sur lui un diamant évalué à plusieurs millions. Voulez-vous m'aider à le lui prendre ?» Bien entendu, il trouve toujours des amateurs. Et à défaut de diamants, il me soulage des banquenotes que j'ai sur moi.
Mais ce misérable peut vous poursuivre toute votre vie. Pourquoi n'avez-vous pas raconté cela au constable?
Parce qu'on eût commencé une enquête et que ses formalités judiciaires eussent retardé, sinon compromis, mon voyage en Hollande.
Cependant, l'enquête se fera quand même?
Oui, mais elle ne nécessitera pas ma présence continuelle à Londres. On classera l'affaire dans la catégorie des cambriolages ordinaires. Tandis que si je ne prétendais victime d'une bande de maîtres chanteurs, les interrogatoires n'en finiraient plus.
Mais cependant, le constable, qui a reçu notre déposition, a bien écrit sur son registre « tentative de chantage ».
Vous en êtes sûr?
Oh oui, pendant qu'il écrivait, je lisais par-dessus son épaule.
Nous verrons. Le principal, c'est que je puisse passer en Hollande le plus tôt possible. Avais-je convaincu Edith? Cela était douteux, car je crois qu'en lui fournissant toutes ses explications, j'avais bafouillé quelque peu. J'étais en ce moment dans la situation d'un homme qui se noie et se débat furieusement. On reconnaîtra qu'il ne fallait une jolie présence d'esprit pour ne pas perdre la tête au milieu de toutes ces tribulations. Jamais, peut-être, je n'avais été aussi menacé. Toutes les complications fondaient sur moi, dru comme grêle. J'étais pris dans un filet qui se resserrait peu à peu. D'un bond, je pouvais encore me dégager, peut-être, mais qui sait si ce bond n'aurait pas pour résultat de me faire trébucher et tombé dans un nouveau piège ouvert sous mes pas.
Chapitre 21. Une expédition assez audacieuse. Le plus cuisant de mes soucis, celui qui me hantait à présent, c'était la question d'argent. J'avais eu la chance, quelques jours auparavant, de dévaliser une bonne dame victime d'un accident, mais il ne fallait plus compter sur semblable aubaine. D'ailleurs, j'étais surveillé. Outre Manzana et ses deux acolytes, je serais certainement filé par l'élégant gentleman qui avait bien voulu si spontanément s'intéresser à moi.
Celui-là était sans doute un détective. Si d'un côté il me protégeait contre mes ennemis, de l'autre il m'enlevait tout moyen d'existence, puisqu'il m'empêchait d'exercer le petit métier auquel je devais le plus clair de mes ressources. Et pourtant, il me fallait de l'argent si je voulais passer en Hollande. Edith, qui me supposait pourvu d'oncle généreux, ne se montrait pas trop inquiète. Mais moi, au fur et à mesure que les heures filaient, je sentais grandir mon angoisse. Je ne sais si quelqu'un de mes lecteurs s'est jamais trouvé dans une situation analogue à la mienne, ce que je ne crois pas. Mais s'il en existe un, celui-là pourra comprendre ma détresse. Il y a vraiment des heures dans la vie où l'on souhaiterait que la foudre vous tombât sur la tête et vous pulvérisât, mais ces accidents-là n'arrivent jamais, généralement qu'à ceux qui ne les souhaitent pas. Edith, ayant manifesté le désir d'aller dîner au restaurant, je lui fis comprendre que cela serait imprudent. « Mes ennemis me guettent peut-être en bas, lui dis-je. À quoi bon nous exposer à une nouvelle aventure ?»« Alors ?» demanda-t-elle. « Nous ne pouvons plus nous risquer dehors ?»« Non, je n'ai pas dit cela. Je tiens simplement à vous mettre en garde contre ce qui pourrait nous arriver aujourd'hui. Demain, il y aura du nouveau. »«
Et du bon, oh, je l'espère. »
J'avais dit cela machinalement pour dire quelque chose, car à ce moment, ma pensée était ailleurs. Oui, je venais d'avoir une idée, mais une idée qui n'avait rien à voir avec les préoccupations d'Edith. Et je me demandais comment je pourrais bien la mettre à exécution. C'était tellement fou, tellement audacieux, que je la repoussais tout d'abord, mais peu à peu, je finis par la trouver plus réalisable. Je me gardais bien de faire part à Edith du projet que je roulais dans ma tête, car ma maîtresse n'était point une confidente. J'étais obligé de lui cacher tout de ma vie et de mentir continuellement avec elle. Peut-être est-ce à ce manque de sincérité que je devais le vif amour qu'elle avait pour moi, car Edith m'aimait, ça j'en étais sûr. Dire que cet amour serait allé jusqu'à un sublime dévouement, cela paraîtrait sans doute exagéré, mais enfin, ma maîtresse avait pour moi une réelle affection, surtout depuis qu'elle connaissait l'existence de l'oncle Schaff, ce brave homme qui voulait, avant de mourir, remettre toute son immense fortune entre mes mains. Des oncles comme cela ne se douteront jamais combien ils sont chéris, non seulement de leurs neveux, mais encore des maîtresses de ces derniers. La nuit était maintenant complète. Je tournais le commutateur et une éblouissante clarté emplit notre chambre. « Je crois, dis-je à Edith, qu'il serait temps de dîner. »«
C'est aussi mon avis, Edgar, mais je n'oserai jamais, après ce qui s'est passé, descendre commander notre repas à Miss Mellis. »«
Et pourquoi cela? Ne l'avons-nous pas payé ce matin ?» « Attendez, je vais aller la trouver, moi, et vous allez voir qu'elle fera absolument ce que nous voudrons. Nous lui devons rien, en somme, je ne vois pas pourquoi nous hésiterions à lui demander quelque chose. »
Edith ne paraissait pas convaincue. Quant à moi, je m'étais rien moins que rassuré, car je m'étais déjà aperçu que Miss Mellis, notre logeuse, était plutôt froide avec moi. Je serais obligé de déployer tous mes talents de séduction pour l'amadouer. Réussirais-je? Je trouvais Miss Mellis dans son petit salon. Elle était assise devant un bureau d'acajou et serrait dans un petit sac de toile des pièces et des banquenotes. En m'apercevant, elle glissa vivement le sac dans un tiroir et me regarda par-dessus ses lunettes. Miss Mellis était une petite femme au teint fade, aux cheveux très blonds, bien qu'elle approchât de la soixantaine. Son unique œil bleu, elle était borgne, avait la fixité inquiétante d'un œil de serpent. « Que désirez-vous ?
demanda-t-elle d'un ton sec. Madame, fis-je en m'inclinant de 45 degrés, je tenais à vous présenter mes excuses, bien que je ne sois pour rien dans le pénible incident que vous savez. Il a pu m'échapper tantôt quelques mots un peu vifs, et croyez que je le regrette sincèrement. Néanmoins, comme cela a été décidé, nous quitterons demain notre logement. « J'y compte bien, » répondit la désagréable petite femme. « Et c'est tout ce que vous aviez à me dire ?»« Je voulais vous dire aussi que nous avons l'intention de dîner dans notre chambre. » « Très bien, quand Marie sera rentrée, je vous ferai monter à dîner. Il y a ce soir du fillet steak et des cauliflower. » Miss Mellis, qui ne tenait point sans doute à prolonger la conversation, remit ses lunettes qu'elle avait posées à côté d'elle sur un tabouret et se plongea dans la lecture d'un livre de religion. « Et alors ?» fit Edith lorsque je reparus. « Tout s'est bien passé, » répondis-je, « nous aurons notre dîner. » Et je me laissai tomber dans un fauteuil pendant qu'Edith attachait avec défaveur les pièces de lingerie que les grosses mains de Bill Sharper avaient quelque peu froissées. Nous demeurâmes longtemps silencieux. Ma maîtresse eût bien voulu causer, mais moi j'avais besoin de me recueillir un peu. L'idée dont j'ai parlé plus haut m'obsédait de plus en plus. La bonne apporta le dîner. Je remarquai que Miss Mellis nous avait réduit à la portion congrue. Décidément, il était temps que nous quittions sa pension. Pendant tout le repas, Edith ne me parla que du diamant. À présent qu'elle était plus calme, elle commençait à raisonner, et ses questions ne laissaient pas que de m'embarrasser un peu. Quand les femmes se mettent à vous interroger, elles deviennent insupportables. Je répondis comme je pus, mais je vis bien qu'un doute subsistait dans l'esprit de ma maîtresse. À la fin, elle laissa tomber ces mots. « Vous êtes, mon cher, un être bien énigmatique. »« Ah ! » fis-je en m'efforçant de rire. « Vous en apercevez aujourd'hui ?»« Oui, aujourd'hui seulement. »« Cela prouve alors que vous êtes peu perspicace. » Mais la discussion s'envenima. Edith me décocha une épithète qui me déplut, je ripostais par une autre. Alors elle se monta. C'est bien, dit-elle, oh, je vous connais maintenant. Vous cachiez votre jeu, mais votre mauvais naturel a quand même repris le dessus. Je sais ce qu'il me reste à faire. Elle prit son chapeau, l'épingla dans sa chevelure d'une main nerveuse, jeta son manteau sur ses épaules et me dit en me regardant fixement « Inutile de m'attendre, vous savez. »« Voyons, Edith, insistai-je, cherchant à la retenir. Si je vous ai dit quelque chose de blessant, je le regrette sincèrement et je vous fais toutes mes excuses. »« Non, non, laissez-moi. »« Voyons, soyez raisonnable. Vous avez dit tout à l'heure que j'étais un être énigmatique. » « C'est possible. Mais vous voudrez bien reconnaître cependant que je ne suis pas un mauvais diable. Et si l'un de nous deux a des raisons pour se plaindre de l'autre, il me semble que c'est moi. Mais que voulez-vous dire ? Voyons, vous le savez bien. Non, je ne saisis pas. Vous oubliez vite. » Edith avait certainement compris à quoi je faisais allusion, car elle devint toute rouge et ne répondit pas. « Allons, » fis-je en l'embrassant, « soyez raisonnable. J'ai tout oublié. » Elle résistait encore, mais mollement, et je me montrais si tendre, si câlin, si caressant, qu'elle finit par jeter son manteau sur une chaise et barotter son chapeau. La paix était faite et nous la scellâmes d'un long baiser. Je n'étais plus maintenant un être énigmatique, mais un amour d'homme, un petit Edgar chéri, le plus parfait des amants. La soirée s'acheva en délicieuses causeries, en projets, en espoirs.
Je promis à Edith de l'emmener le lendemain à Douvres, puis de là à Hollande, et je lui jurerai que sur le premier argent provenant de l'héritage de l'oncle Chaffre, je lui paierai un joli collier de perles et une superbe aigrette en diamant. Bref, je l'éblouis, et la pauvre petite, fascinée par l'éclat des cadeaux que je faisais miroiter, je ne dirais pas à ses yeux, mais à son esprit, tomba dans mes bras en murmurant « Oh, Edgar, Edgar, que vous êtes gentil et comme je vous aime !» Bon, j'étais à peu près sûr de mon effet, car je sais par expérience que les femmes ne résistent jamais à l'appât d'un bijou. Edith était vaincue, du moins, je l'avais reconquise. C'est tout ce que je désirais, et il m'eût pu manquer qu'elle devint une ennemie, elle aussi. Manzana, Bill Sharper et Edith, oh, c'eût été trop vraiment, et j'eusse fatalement succombé sous le poids de tant d'inimitié. Je la déshabillai, la mis au lit comme un petit enfant. Elle ne tarda pas à s'assoupir et à rêver sans doute de colliers de perles et d'aigrettes de diamants. Quand j'eus acquis la certitude qu'elle était bien endormie, je pris mon canif et, tout doucement, fis une profonde entaille dans le fauteuil d'où je retirai une grosse poignée de crin noir. Passant ensuite dans le cabinet de toilette, je procédai sans bruit à un camouflage des plus habiles. Au moyen des diverses pâtes dont Edith se servait pour sa toilette, je me teignis la peau en rouge, dessinai un cercle noir autour de mes yeux, puis éparpillant le crin sur ma tête, je me fis une perruque frisée, une vraie perruque de papou. Je me confectionnai ensuite une barbe et une moustache que je collai sur mon visage avec un peu de sécotine. Afin que ma tignasse de crin ne pût tomber, je coiffai une casquette de voyage. Puis après avoir retourné mon veston, qui était doublé d'une étoffe à carreaux verts et rouges, et l'avoir endossé à l'envers, je relevai mon pantalon jusqu'aux genoux, ôtai mes bottines et mis des pantoufles de feutre. Ainsi camouflé, j'étais horrible, tellement horrible, qu'en me regardant dans la glace, je me fis peur. Oui, là, sérieusement. Le lecteur se demandera sans doute ce que signifiait cette mascarade. Bon, on va voir qu'elle avait un but utile. Edith dormait toujours. J'entendais, à travers le rideau du cabinet de toilette, sa respiration régulière et douce. J'éteignis alors l'électricité, revins dans la chambre, gagnai la porte à pas de loup et m'engageai dans l'escalier, mon étui de pipe à la main. Arrivé sur le palier où se trouvait le salon de Miss Mélis, je m'arrêtai. Par la baie vitrée, j'aperçus la logeuse. Elle était assise devant son bureau et je crus tout d'abord qu'elle lisait, mais l'ayant observée plus attentivement, je remarquai que, de temps à autre, sa tête s'inclinait brusquement, puis se relevait de même, comme si elle saluait quelqu'un. Miss Mélis dormait. J'ouvris la porte du salon et m'avançai vers la logeuse, le bras tendu, comme prêt à faire feu sur elle, avec mon étui de pipe. Elle se réveilla en sursaut, m'aperçut, voulut crier, mais les mots s'étranglèrent dans sa gorge. Elle se dressa, battit l'air de ses mains et tomba évanouie. Sans perdre une seconde, j'ouvris le tiroir de son bureau, y pris le sac de toile dans lequel je l'avais vu serrer son argent quelques heures auparavant, puis d'un pas léger, je regagnai ma chambre. Edith ne s'était pas réveillée. Passant dans le cabinet de toilette, j'ouvris la fenêtre, lançai dans le vide ma perruque et ma barbe de crin, me débarbouillai à grande eau, puis, quand j'eus fait disparaître les dernières traces de mon horrible maquillage et remis un peu d'ordre dans ma tenue, j'ouvris doucement le sac de Miss Mélis et fis l'inventaire de ce qui s'y trouvait.
Il contenait 80 livres en banque-notes, 10 couronnes et 25 shillings. On voit que ma petite expédition n'avait pas été inutile. J'eus un moment l'idée de jeter par la fenêtre le sac de toile, mais je jugeais plus prudent de le brûler dans la cheminée où flambait un bon feu de houille.
« Mais que faites-vous donc, Edgar ?» bredouilla Edith, qui s'était à demi réveillée. « Vous vous couchez donc pas ?»
Elle n'entendit probablement point la réponse que je lui fis, car elle se rendormit presque aussitôt. Je venais de passer mon pyjama et je m'apprêtais à boire un peu de whisky, quand des cris affreux retentirent dans l'escalier. Cette fois, Edith se dressa d'un bond sur son lit.
« Mon Dieu ! S'écria-t-elle, qu'y a-t-il donc ? Le feu est-il à la maison ?»
Courageusement, je m'étais précipité vers la porte.
« Oh, Edgar, Edgar, où allez-vous ? »
« Mais portez secours à la personne qui appelle. Il me semble reconnaître la voix de Miss Mellis. Si elle est menacée, puis-je la laisser assassiner ?» Et malgré les supplications de ma maîtresse, je me lançai dans l'escalier. Je trouvai Miss Mellis sur le palier du premier étage. Sa bonne Mary se tenait à côté d'elle. Toutes deux tremblaient affreusement et poussaient des cris perçants. Dès qu'elles m'aperçurent, elles se précipitèrent dans mes bras. Pour elles, j'étais le sauveur et il fallait voir comme elles me serraient. Ce fut Miss Mellis qui recouvra la première l'usage de la parole.
« Oh, monsieur !» s'écria-t-elle. « Oh, monsieur, si vous saviez, c'est affreux, je... »
Elle s'arrêta, suffoquant, puis reprit en proie à une terreur folle.
Je suis sûr qu'il est encore ici. Oui, j'en suis sûr. J'ai entendu marcher dans la cuisine. »
Pour la rassurer, j'allais explorer l'office, la cuisine et une petite lingerie qui donnait sur le palier. Mais comme on doit s'y attendre, je ne découvris point le malfaiteur.
« Mais il faudrait prévenir la police, » bégaya la maid. « Allez-y, vous, monsieur. »
Une voix venant du rez-de-chaussée prononça ces mots. « La police est prévenue, rassurez-vous. » Et un homme, qui montait lentement l'escalier, s'arrêta bientôt devant nous.